France Culture.
Voici notre premier rendez-vous avec la rédaction, le journal de Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Sébastien Lecornu promet qu'il repartira d'une feuille blanche pour le prochain budget. Mais il écarte plusieurs demandes de la gauche et des syndicats. Le Premier ministre exclut notamment d'abroger la réforme des retraites. Et puis Médecins Sans Frontières obligé de suspendre ses activités à Gazaville en raison de l'intensification de l'offensive israélienne dans le territoire palestinien. Sébastien Lecornu donne quelques pistes sur le prochain budget. Dans un entretien au Parisien, le Premier ministre assure qu'il ne veut pas d'un budget d'austérité et de régression sociale. Mais sur le sujet explosif des retraites, il est clair, s'il est possible de faire évoluer la réforme, il n'est pas question de l'abroger. Une déception pour Cyril Chabanier, le président de la CFTC, qui avait participé au conclave organisé par François Bayrou.
Déçu évidemment parce que on espérait la suspension au moins de la réforme et il n'y a pas de suspension. Maintenant, à minima, on n'aura peut-être pas totalement travaillé pour rien dans le conclave puisqu'on avait fait quelques avancées pour améliorer la loi Borne. Et parmi les avancées qu'on avait pu faire et qui étaient actées entre syndicats et patronat, il y avait le fait de pouvoir améliorer la retraite des femmes, enfin en particulier des femmes avec enfants, en calculant leur retraite non plus sur 25 ans, mais 24, 23, selon le nombre d'enfants qu'elles avaient. Donc si au moins ça, et a priori il semble le dire, si au moins ça c'est retranscrit dans la loi, on aura toujours été au moins utile pour ces femmes avec enfants qui verront leur pension un peu s'améliorer. Mais ce qu'on souhaitait, c'était à minima la suspension, et donc ça on l'a pas.
Cyril Chabanier, le président de la CFTC, au micro de Sophia Berada. Alors qu'il disait vouloir tendre la main aux socialistes pour ne pas être censuré, Sébastien Lecornu a, outre la réforme des retraites, écarté plusieurs demandes de la gauche, notamment la taxe Zucman sur les hauts patrimoines. Pour le PS, le Premier ministre a fermé toutes les portes et sans changement majeur, il censurera le prochain gouvernement que Sébastien Lecornu promet pour la semaine prochaine avant le début de la session parlementaire mercredi. Le président du MEDEF, Patrick Martin, se réjouit lui de la priorité que semble accorder le Premier ministre à la réduction des dépenses publiques. Il veut notamment réduire de 6 milliards d'euros le train de vie de l'État. La présidente du tribunal qui a condamné Nicolas Sarkozy cible de menaces. Le parquet de Paris indique que 2 enquêtes ont été ouvertes et confiées au pôle national de lutte contre la haine en ligne. La création d'un État palestinien serait un suicide national pour Israël. Déclaration hier de Benjamin Netanyahou à la tribune de l'ONU à New York, fustigeant les pays qui ont reconnu l'État de la Palestine, dont la France. Le Premier ministre israélien a promis de finir le travail contre le Hamas à Gaza. En raison de l'intensification de l'offensive israélienne dans le territoire palestinien, l'ONG Médecins Sans Frontières a annoncé être obligée de suspendre ses activités dans la ville de Gaza. Écoutez le témoignage du directeur médical adjoint de MSF France, le docteur Mathieu Bichet. Il a évacué la ville de Gaza avant-hier pour se rendre dans le centre du territoire palestinien.
Les raisons qui nous ont conduits à prendre cette décision, c'est avant tout des raisons de sécurité, en particulier l'arrivée de tanks en fait, à proximité de notre clinique, de notre site. Les forces israéliennes avancent et se rapprochent en fait du centre de la ville. C'est une situation apocalyptique en fait. Donc la dévastation est massive. Des attaques aériennes ou alors par drone sont quotidiennes. Ensuite, il y a l'absence de nourriture. Puis l'eau, c'est un problème. Par exemple, nous faisions des distributions d'eau, donc on a été contraint de suspendre également cette activité-là. Et puis l'accès aux structures de soins est extrêmement limité et ces hôpitaux sont complètement saturés. C'est un état de chaos en fait. Donc c'était extrêmement difficile de procéder à cette évacuation, oui. Nécessaire pour nous, mais malheureusement tragique pour les patients qu'on laisse derrière.
Le docteur Mathieu Bichet de MSF France, propos recueillis par Omar Waman. Les sanctions de l'ONU contre l'Iran devraient être réimposées ce soir. Le groupe 3 des pays européens, Grande-Bretagne, France et Allemagne, accuse Téhéran de ne pas respecter l'accord de 2015 visant à l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Malgré cette décision, le président iranien assure que son pays n'a pas l'intention de quitter le traité de non-prolifération nucléaire. La Cour suprême américaine se range de nouveau du côté de Donald Trump. Elle autorise son administration a bloqué environ 4 milliards de dollars d'aide internationale, pourtant autorisée par le Congrès. Le temps, aujourd'hui, hésitant, entre nuages et éclaircies sur la majeure partie du pays, plus couvert dans le nord-ouest, avec même quelques gouttes en soirée. En Bretagne, les températures maximales, 16 à 20 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 20 à 26 au sud. France Culture, 7h05, et c'est bien sûr Nicolas Herbeau qui vous accompagne pour le matin du samedi.
Je suis bien là, et vous aussi, Marie-Hélène Duvigneux. Vous revenez à 7h30?
Mais oui, avec plaisir.
Pour les titres de l'actualité. D'ici là, voici le programme de cette matinée. Dans quelques minutes, l'invité de la transition de la semaine nous raconte comment une certaine jeunesse française pourrait être tentée par un pouvoir autoritaire. À 7h24 dans Récits d'enquête, qui sont ces snipers allemands et américains accusés de possibles crimes de guerre à Gaza? Et dans notre discussion dans 30 minutes, 10 ans après les accords de Paris sur le climat, assistons-nous au changement de leadership dans le monde? Trump a toujours parlé de canular ou de conneries, ce sont ses mots, pour désigner le réchauffement ou le changement climatique. Cette semaine, à la tribune des Nations Unies, il est allé encore plus loin en décrivant, et je cite encore, la plus grande arnaque jamais menée contre le monde. Face à ses outrances, la Chine, elle joue les bons élèves, mais est-ce suffisant? L'Europe doit aussi montrer l'exemple à quelques semaines de la prochaine COP qui se tiendra au Brésil. Quels enjeux? On en parle avec nos invités ce matin. Vous avez le programme, il est 7h06 sur France Culture. Bon réveil. Et on débute avec le reportage de la rédaction qui s'intéresse ce matin aux 40 ans des Restos du Cœur. Après la crise financière de 2023, les restos se sont refaits une santé, mais aujourd'hui, c'est la crise du bénévolat qui commence à se faire sentir. Cette semaine, le centre de distribution de Mulhouse, par exemple, a dû fermer ses portes faute de volontaires. Vous, Mathilde Gariou, vous êtes rendue dans la Marne, où un centre vient justement d'être sauvé in extremis.
Ils sont une petite dizaine ce matin à transporter des palettes dans l'entrepôt de Tessie, en banlieue sud de Reims. Opération supervisée par Jacques Bizet, le responsable de l'entrepôt.
Eux, ils ne font que tout ce qui est réception, stockage et préparation. Donc ça, ce sont les gens qui sont ici. On va dire qu'il y a 15 personnes qui fonctionnent en permanence ici. Et après, pour faire les livraisons dans les centres, on a 10 camions. Et pour faire tourner 10 camions, il faut à peu près 30 bénévoles.
En tout, sur l'entrepôt, c'est une cinquantaine de personnes qui tournent à raison de 2 à 3 jours par semaine. Il en faudrait au moins 80, de préférence des transporteurs.
Ah ben, l'entrepôt, c'est assez simple, hein. C'est manutentionnaire, logistique et CACES. Les fameux permis de conduire, les chariots élévateurs ou gerbeurs. Donc là, on ne peut pas prendre quelqu'un au hasard parce qu'une palette, ça pèse jusqu'à une tonne. Donc une palette qui tombe, ça peut faire du dégât.
Des palettes de lait, de légumes, de savon, on en stocke un peu plus de 200 ici à Tessie. Ça fait environ 30 tonnes de denrées distribuées chaque semaine, estime Arnaud Persine, président des Restos de la Marne.
Aujourd'hui, on est à 30 tonnes, mais il faut savoir que ça a augmenté de combien? 60%
par rapport à l'année dernière, à la même période d'été.
Pourquoi? Soit parce qu'il y a une augmentation de famille accueillis, soit ils sont beaucoup plus assidus, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment beaucoup plus dans le besoin et viennent beaucoup plus souvent dans les centres.
La Marne compte 8000 inscrits au Resto du Cœur, répartis sur 12 centres de distribution. Le plus important, c'est celui du quartier Wilson, dans le sud de Reims, avec plus de 2900 bénéficiaires.
Ça, ce sont les familles accueillies qui arrivent là. Elles font la queue dehors, là, malheureusement, parce que le centre est trop petit pour faire la queue à l'intérieur. Alors vous imaginez, l'hiver, quand il fait froid, c'est terrible.
Aujourd'hui, c'est le jour des familles avec des enfants de moins de 3 ans.
Là, on est à plus de 800 familles.
Solange et Anissa, deux bénévoles, s'occupent de la distribution.
C'est beaucoup physique. Enfin, on court, on n'a pas le temps de pause. Et on a fini une personne, un bénéficiaire, il faut reprendre un autre directement derrière. Et sinon, au lieu de se tourner les pouces, pour qu'on passe du rempotage dans les rayons, qu'on vide les frigos, enfin, on a toujours des choses à faire.
Alors, je vous donne des fruits. On attend, hein. Est-ce qu'elle mange les légumes?
On n'est pas là pour dire, tenez, une boîte de petits pois, une boîte de haricots verts, il faut quand même qu'on puisse prendre le temps. À 800 personnes, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est un défilé permanent.
Les couches, j'ai plus de 6.
3000 personnes dans 300 mètres carrés, plus les bénévoles, vous imaginez. Et ça peut créer des tensions, ça peut créer de la fatigue, ça peut créer... En plus, on ne peut pas faire tout le travail qu'on devrait faire. Quand on parle d'alimentation, c'est une chose, mais il y a aussi la réinsertion, il y a aussi l'aide à la personne. Il faut écouter les gens, il faut avoir le temps de parler avec eux. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être nombreux pour prendre le temps.
Pour désengorger le centre, les restos veulent ouvrir un 4e point de distribution dans la ville de Reims. Mais là encore, il faut des bras. 80 personnes se sont portées volontaires après l'appel au secours du mois de juillet. C'est encourageant, mais pas de quoi crier victoire, estime Arnaud Persine.
Les bénévoles qui arrivent, on leur a explique le travail, mais ça peut être compliqué pour certaines personnes, donc ils renoncent ou qui viennent pas. On peut dire qu'on en a à peu près 50% qui vont être fidèles, je pense. Au-delà, ce serait magnifique, mais je n'y crois pas.
La recherche de volontaires, conclut-il, est un éternel recommencement, car les bénévoles restent en moyenne 3 ans au Resto du Cœur.
Mathilde Cariou pour le reportage de la rédaction ce matin. Vous écoutez France Culture, il est 7h10, place à la transition de la semaine.
7h-9h, les matins du samedi. Nicolas Herbeau.
C'est un récent sondage dont les résultats sont déstabilisants. En France, seul un jeune sur deux préfère sans réserve la démocratie aux autres systèmes politiques. Résultats comparables en Espagne et en Pologne, selon cette enquête YouGov, publiée en juillet et menée auprès des 16-26 ans dans différents pays d'Europe. Ces jeunes adultes sont donc de plus en plus nombreux à considérer que dans certaines conditions et dans certaines circonstances, un pouvoir autoritaire serait souhaitable, homme ou femme, diplômé ou non, penchant à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, mais votant rarement. 4 d'entre eux vous ont confié leur motivation. Bonjour Marie Bouetton.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à La Croix l'Hebdo et l'autrice de cette enquête publiée il y a quelques jours intitulée « Il nous faudrait un Poutine », c'est une citation, ces jeunes Français qui rêvent d'un pouvoir autoritaire. J'en ai dit un mot, ces jeunes gens que vous avez rencontrés ont tout type de profil professionnel, de l'employé agricole à l'ingénieur. Est-ce que cette diversité a été une surprise pour vous ?
Oui, tout à fait. On sait que ces jeunes, statistiquement, sont plutôt proches des idées d'extrême droite et sont plutôt moins diplômés que la moyenne. Il n'empêche, ce ne sont que des statistiques. Et en effet, parmi les jeunes que j'ai interviewés, j'en retiens 2 notamment sur les 4 qui composent mon papier, qui sont ingénieurs. Hein. Donc il y a eu une excellence académique qui ne les empêche pas, en effet, du fait sans doute malgré tout d'un manque de culture politique et d'un manque de conscience historique, d'être tenté par un régime autoritaire.
On a envie de comprendre qui sont ces jeunes. Pour l'instant, et vous le dites d'ailleurs dans votre enquête, ce sont des profils qui sont très peu étudiés en France, parce qu'il est difficile de tenir ce type de discours.
Oui, alors il l'assumait de façon relativement désinhibée face à moi, tout en exigeant quand même l'anonymat. C'est-à-dire qu'ils ont quand même la lucidité de se dire « si je témoigne à visage découvert, est-ce que je risque pas de ne pas être recruté ?» etc. Donc ils ont quand même cette lucidité-là. Mais en effet, il y a une forme de désaffiliation politique très marqué. Moi, ce qui m'a surpris et que je leur opposais, c'était à la fois chez eux une grande demande de justice sociale qui s'inscrit plutôt dans une tradition de gauche et puis en même temps un désir d'un régime autoritaire que là, on retrouve plutôt dans la tradition d'extrême droite. Et quand je leur disais qu'il y a une forme d'opposition à porter ces deux types de valeurs relativement antagoniques, il ne comprenait pas. C'est-à-dire que à plusieurs moments, je me suis dit, en fait, je suis un boumeuse totale et je ne comprends pas qu'il y ait une forme de recomposition politique et idéologique dans une partie de la jeunesse qui, vous le rappelez, c'est vrai, est minoritaire, bien sûr, hein, mais qui n'est pas totalement marginale.
On va parler évidemment de leurs revendications et de leur vision de la démocratie, puisque c'est ça dont il est question, Marie Bouetton. D'abord, pour revenir un tout petit peu sur les profils, vos 4 interviewés, Ilona, Élise, Thibault, Jordan, ce sont de jeunes adultes qui ne votent pas.
Jamais.
Jamais. Oui. Ils ne sont jamais allés mettre un bulletin dans l'urne et qui ont aussi, et ça c'est leur point commun, une grande défiance vis-à-vis des médias traditionnels.
Ah oui, totalement. Ils ne s'informent plus par ce qu'ils appellent la caste des journalistes qui, selon eux, ne portent pas leur voix, leurs revendications, et puis qu'ils associent plus largement à ce que nous, on pourrait appeler les contre-pouvoirs, c'est-à-dire ces corps intermédiaires que sont les médias, la justice, les syndicats, le Parlement, qui à leurs yeux, et ça me semble extrêmement grave, qui à leurs yeux, au fond, ne jouent pas leur rôle de contre-pouvoir, mais qu'ils associent davantage à une forme de nouvelle aristocratie qui ne dirait pas son nom et qui, quelque part, s'arroge les sièges, les places, les postes, qui joue le jeu de l'entre-soi et pas de la démocratie, c'est-à-dire qui ne porte pas leur voix et qui ne fait que profiter de ces positions en jouant de la connivence, etc. Et par ailleurs, ils voient les médias et encore une fois plus largement les contre-pouvoirs comme entravant l'action politique. C'est-à-dire qu'ils vous disent les élus censurent, les médias critiquent, les syndicats contestent, les juges condamnent. Et pour le coup, ce sont autant d'entraves à une action puissante.
Justement, comment ils s'informent, puisqu'ils rejettent les médias traditionnels?
Beaucoup de youtubeurs, hein, d'influenceurs sur YouTube, notamment certains d'extrême droite, hein, qui, pour plusieurs d'entre eux, au fond, considèrent qu'il faut en finir avec cette démocratie tiède, au fond. Et ces youtubeurs, pour le coup, ont eux-mêmes, dans leur façon de se présenter, dans leurs paroles, des méthodes, un style et un ton extrêmement désinhibés.
Parmi les griefs qu'ils font à la démocratie, il y a donc l'impuissance des dirigeants, l'inaction, l'absence de responsabilité des gouvernants, les discours flous et les privilèges dont vous venez de dire un mot. Et la solution, ce serait donc un homme fort qui arriverait au pouvoir et qui pourrait prendre toutes les décisions possibles.
Oui, c'est-à-dire que, comme je le disais, ils estiment que l'action publique est devenue totalement impuissante et qu'il faut donc le moins d'entraves possible à celui ou celle qui pourrait exercer le pouvoir. Donc pour eux, un pouvoir fort, c'est un pouvoir qui fait fi des élections, qui fait fi du Parlement et qui fait fi des contre-pouvoirs. Ils estiment aussi que cette puissance-là, que nous on pourrait associer à un risque de dérive autoritaire ou autoritariste, cette puissance-là pour eux est associée à l'idée d'une protection de l'État-nation, et c'est une énorme demande, la demande de protection et de sécurité. Alors, on voit toujours la sécurité comme étant une lutte contre la délinquance. C'est plus large que ça. Ils veulent une vie plus sécure, au sens économique et social du terme. Et pour eux, un Poutine ou un Trump est à même de leur offrir ça.
Oui, c'est ça, il nous faudrait un Poutine, pardon, c'est le titre de votre article. Mais effectivement, ces autres hommes forts étrangers, Trump, Erdogan, Milley, ces discours virilistes, et c'est, vous le soulignez, des discours simplistes, c'est aussi ça qui fait que leur oreille est attentive.
Ça accroche l'oreille, en effet. Ils étaient plusieurs à me dire, et ça m'a marqué, parce que ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on en prenne toute la mesure. Trump, il reconnaissait, il est parfois un peu fou, ça, c'est pas la question.
Oui, Jordan dit, le gars est à moitié fou, mais ce n'est pas la question. Au moins, il agit, il prend des décisions pour son peuple, il décide en 3 minutes et bam.
Voilà. Donc, il y a à la fois l'idée que, il y a deux idées là. Il y a à la fois Trump, il nous offre un récit, et à plusieurs reprises,